Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Nous allons passer une heure ensemble dans notre bulle d'optimisme. On va découvrir des femmes et des hommes qui ont l'audace d'entreprendre. Et à La France bouge, même quand c'est impossible, ici, c'est possible. N'est-ce pas, Emmanuel Dutheil ? Bonjour.
Bonjour, Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et d'agents secrets.
Oui, voilà bien encore une pépite française quasi méconnue, mais qui est en train de devenir un leader mondial de la cybersécurité. Tetris a été fondé par Elena Poincet, ancienne agent secret. Oui, une sorte de James Bond girl. Tetris tente de faire en sorte de débusquer les attaques avant qu'elles n'arrivent, un principe très innovant, à un moment où il n'y a jamais eu autant de cyberattaques.
À la une, en effet, nos téléphones portables et nos applications. Comment être sûr que nous ne sommes pas espionnés ? Comment savoir si nos données ne sont pas transmises à un tiers ? Une start-up en a fait sa spécialité, c'est Pradeo. Elle travaille aujourd'hui avec les entreprises. Les détails d'ici quelques minutes.
Retour également dans cette émission sur un métier qui est entouré de tous les fantasmes. Agent secret, on vous l'a dit, Elena Poincet en a été une. Dans la saga du jour, on va vous faire justement réécouter une pépite des archives d'Europe 1.
Nous accueillerons ensuite nos trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge. Aujourd'hui, c'est une agence immobilière sur mesure. Elle s'appelle Altezza Service. Rendez-vous à 13h45 pour découvrir ce projet.
Enfin, demain on travaille. Aujourd'hui, on a quoi, tiens, dans notre besace ? Il paraît qu'on a 350 postes à pourvoir. Où ça ? Bah, vous restez avec nous. Entretien d'embauche, 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
On est chaque jour très heureux de vous retrouver, là toujours plus nombreux à nous écouter autour de la table de La France bouge aujourd'hui pour parler cybersécurité avec sûrement l'une de nos futures licornes françaises. Vous savez, ces pépites françaises qui un jour valent plus d'un milliard de dollars. On n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, puis peut-être qu'un jour ce sera au tour de Tetris.
Bonjour Elena Poincet.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Tetris, Tetris expert contre le cyber-espionnage. Elena Poincet, vous avez passé 12 ans dans l'armée de terre et vous êtes lancée dans la cybersécurité, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a près de 150 personnes qui travaillent chez Tetris. 210, ça a augmenté depuis l'autre jour. C'est situé près de Bordeaux, à Pessac. Et si les femmes sont peu représentées dans le numérique, elles sont encore moins nombreuses dans la cybersécurité. Elles ne composent que 5% à peine des effectifs. Elena Poincet, vous avez développé une technologie avec de l'intelligence artificielle. En gros, vous protégez les ordinateurs d'espions, de cyberattaques, le tout en temps réel. En gros, vous n'attendez pas que la menace arrive, vous analysez tout en temps réel et c'est ça la force de Tetris.
C'est exactement ça. La force de Tetris, c'est d'avoir développé, d'avoir une technologie propriétaire basée sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, etc. Et ce sont des capteurs extrêmement intelligents que nous plaçons dans les postes de travail, dans les serveurs, dans le cloud, sur les téléphones portables des entreprises. Et ce qui nous permet de détecter tous les comportements, les malveillants et qui essaieraient de justement d'installer une backdoor à l'intérieur d'un poste de travail ou un rançon logiciel qui permet de chiffrer complètement un parc numérique.
Donc de récupérer toutes les données d'une société. Tous les secrets, toutes les données d'une société.
C'est ça, s'il y a une attaque. Donc nous, notre but, c'est ça, c'est de neutraliser en temps réel et sans action humaine.
Alors, est-ce que ça évite du coup toutes les attaques ?
Ça évite toutes les... Le but, justement, ce sont les attaques inconnues.
Bien sûr.
C'est ça, toute la difficulté. Et c'est notre enjeu, et c'est ce que nous faisons au sein de Tetris, d'arrêter toutes les attaques. Et d'ailleurs, je sais que nos clients sont bien contents que nous arrêtions toutes les attaques, parce qu'elles arrivent, effectivement, il y a à peu près 300 000 nouveaux virus qui arrivent chaque semaine sur le net.
Donc 300 000 nouveaux virus, je crois qu'il suffit de 37 minutes pour réaliser une attaque informatique. Donc vous intervenez, Tetris intervient avant ces 37 minutes. En fait, vous le voyez arriver, c'est comme un avion qui va se scratcher. Vous le voyez arriver, vous allez l'intercepter. Vous êtes une sorte d'iron drone, quoi.
Oui, alors je ne sais pas si on peut l'expliquer.
Mais l'image, en tout cas, on comprend bien grâce à cette image.
Je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais effectivement, tous les vecteurs qui peuvent faire qu'une backdoor, un exécutable s'installe sur un poste de travail, quoi, sur un système, eh bien, nous sommes là pour l'analyser et voir s'il est connu, c'est-à-dire connu gentil, ou méchant. Et dans ce cas-là, on le neutralise et l'utilisateur de la station permet de continuer son travail et il n'y a pas de risque pour la société.
Elisabeth le disait, tout ça c'est grâce à l'intelligence artificielle, mais j'imagine qu'il faut quasiment toutes les secondes le réinventer parce qu'ils sont intelligents, ces hackers et tous ceux qui essayent d'entrer dans nos systèmes, ils savent les contourner, ils savent réinventer. Donc vous, comment vous arrivez à vous adapter, là encore en temps réel, à une menace qui ne cesse d'évoluer?
Mais c'est toute la force de notre produit, justement, cette XDR plateforme, c'est Extended Detection Response, qui permet, avec tous ces capteurs qui sont complètement interconnectés et qui sont aussi dans une intelligence globale qui représente à peu près plus de 200 millions d'exécutables qualifiés, si vous voulez, et puis plus toute notre intelligence artificielle qui travaille en permanence et qui analyse tout ça.
Ça, vous êtes un des seuls groupes dans le monde à réussir à le faire ?
Tout au moins en France et en Europe, c'est sûr. Et puis nos concurrents, effectivement, sont principalement américains, israéliens.
Vous parliez des gentils et des méchants. C'est-à-dire, on reconnaît ceux qui sont gentils, on reconnaît les malveillants. Il y en a de plus en plus complexes de ces cyberattaques. Quand vous dites qu'ils sont malveillants, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ?
Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça bypass tous les systèmes. Vous avez un système d'exploitation, par exemple Windows, qui a énormément de failles. Eh bien, un pirate, à l'heure d'aujourd'hui, rentre dans ce logiciel et fabrique l'arme informatique à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on rentrait dans cette pièce-là, et puis je prends le câble, et puis je fais une action malveillante sur vous. C'est-à-dire que maintenant, c'est ça la difficulté. Et c'est justement au travers d'un logiciel qui, lui, est normalement bienveillant, eh bien, comment on arrive à détecter que ce logiciel est en train de faire quelque chose de malveillant. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut être dans les couches, c'est ce qu'on dit, dans les couches très très basses du système pour voir le mauvais comportement.
Mais comment on connaît également toutes ces failles ? C'est-à-dire que vous avez également des hackers chez vous qui essayent à longueur de temps d'entrer et de voir ce qui est possible de façon gentille, hein, pour derrière trouver justement le portail pour faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Mais c'est ça aussi une partie de votre boulot ?
Alors, c'est ça. Et d'ailleurs, Tetris a été confondé avec Laurent Houdot, qui est un hacker de renommée internationale. Et justement, toute la force d'un système de défense, c'est de connaître l'offensif. Si on n'a pas connu l'offensif, eh bien, comment peut-on
réellement... une attaque terroriste, en fait.
Pardon ?
En fait, c'est comme une attaque terroriste en réel. C'est-à-dire, on se met à la place de celui qui va attaquer.
Exactement. Et puis, il faut connaître justement tous les systèmes. C'est quelqu'un qui, dès l'âge de 9 ans, craquait ses premiers jeux et donc il est tombé dedans tout petit.
Qu'est-ce que vous voyez, vous, de ces attaques ? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui sont racontées. C'est qui ? Ce sont des Russes ? Ce sont des Iraniens ? Ce sont des Chinois ? Est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur cette... J'allais dire menace invisible, elle est plus invisible parce qu'elle touche la réalité.
Mais... Elle est plus invisible du tout puisque ce sont carrément des cartels qui sont organisés. Vous avez autant un service RH, autant un service R&D, autant un service financier. Et tout ça, ça se structure sur le net. Et ce sont des organismes... Alors, on ne peut pas dire c'est effectivement des Russes, des Chinois, mais ça peut être... aussi d'autres pays potentiellement amis.
Mais c'est quand
amis,
même
quoi.
Principalement
potentiellement amis ?
Potentiellement, tout au moins, amis, oui, parce que...
Mais qu'est-ce qu'on entend par amis des Américains ou des...
Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quel pays, de toute façon, il y a des gens qui travaillent dans ces cartels. C'est ça, en fait.
Lutter contre les cyberattaques en temps réel, avant même d'être touché, hein, c'est ce que vous faites, hein, Elena Poincet, avec votre belle entreprise qui s'appelle Tetris. Vous êtes notre témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle une fois de plus d'une pépite française. Je vous le disais tout à l'heure si vous étiez avec nous au début de l'émission. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez Tetris. Nous, pour être très honnête avec Elisabeth, on ne connaissait pas. Mais quand on a découvert que c'était l'une de nos pépites dans le domaine de la cybersécurité, qui sont les seuls en France et en Europe à avoir une technologie qui peut vous permettre, là à la maison ou dans vos entreprises, d'éviter toutes les cyberattaques.
Et dirigée par une femme.
Et dirigée en plus par une femme. Ça, c'est encore mieux dans un secteur où il n'y en a quasiment pas, puisqu'Elisabeth vous disait qu'il y a moins de 5% de femmes dans le milieu de la cybersécurité.
Alors, on a tous un téléphone portable. Enfin, beaucoup d'entre nous ont même un smartphone, un téléphone intelligent sur lequel vous pouvez télécharger des applications. Alors, vos téléchargements sont-ils sûrs ?
Moi, j'en sais rien.
Pouvez-vous être tracé ? Sur notamment quand on a un téléphone professionnel, donc avec des données secrètes, hein, enfin en tout cas confidentielles, d'une entreprise. Bonjour Clément Sade.
Bonjour.
Vous êtes le président et le fondateur de Pradeo. C'est une entreprise montpelliéraine qui a été créée il y a 10 ans. Vous faites, vous, de la sécurité de téléphone portable. En gros, vous pouvez savoir si une application nous trace et même nous géolocalise, c'est bien cela ?
Alors c'est tout à fait ça. Historiquement, on a créé la société sur la problématique même de l'apparition des smartphones. Rappelez-vous, en 2008, il y a eu l'explosion des smartphones et des tablettes. Et la véritable révolution, ce n'était pas tant le terminal en soi, mais plutôt le modèle par application qui est né avec ces types de terminaux.
Dès 2008, vous vous êtes dit, oulala, attention, grâce à... Alors, vous avez été créé il y a 10 ans, mais vous vous êtes dit, dès le démarrage, tiens, il peut y avoir des attaques ?
Ben, très tôt, on a compris que le téléphone allait bouleverser un peu ce qu'on a connu historiquement en informatique, avec les ordinateurs, les serveurs, etc. Et notamment par ces applications qui finalement rendraient très simple l'accès au monde digital. Regardez nos parents, l'ordinateur c'est compliqué, le smartphone c'est déjà beaucoup plus simple. Et la vérité c'est que à travers ces applications et nos téléphones, on a nos vies maintenant.
Enfin, ça c'est vrai.
On a nos... Alors attendez, comment ça fonctionne votre truc là pour qu'on, comment vous nous tracez ? Comment on fait en sorte d'être sauvegardé ?
Alors, on a développé une application, du coup, que vous installez sur votre...
Elle est sûre, elle, au moins.
Elle est très compréhensible.
Ils connaissent toute votre vie, mais ça reste entre eux.
Elle est certifiée par nous-mêmes, je ne sais pas si c'est suffisant. Et cette application va contrôler l'ensemble de l'activité de l'utilisateur, et notamment les applications qu'il va télécharger. Et ces applications, en fait, on va, de manière automatique, révéler ce qu'elles font réellement quand elles sont sur votre téléphone.
Et alors, on trouve quoi, vous trouvez ? Qu'est-ce que font les applications, réellement ?
Alors, elles peuvent, par exemple, si elles acceptent votre géolocalisation, votre agenda, est-ce qu'elles font de l'écoute téléphonique, est-ce qu'elles lisent vos SMS, et surtout...
Mais il y en a beaucoup qui font ça ?
Alors, chaque année, on sort une météo, la météo des menaces liées aux applications mobiles. Et je vous confirme qu'effectivement, et il n'y a pas de différence entre Android et iOS, il y a une vraie accélération de la récupération des données personnelles des utilisateurs.
Et ça s'est accéléré avec le télétravail, parce que tout ce qu'on en est, on a travaillé un petit peu plus avec la tablette de la maison, l'ordinateur de la maison, pas toujours aussi bien sécurisé.
L'ordinateur du travail qui arrive à la maison avec la connexion de la maison, donc...
Je pense qu'Elena ne va pas me contredire. Il y a eu une explosion des attaques en cybersécurité, notamment liées à la mise en place du télétravail. Intuitivement, on peut le comprendre, puisque le télétravail, c'est de fait une aubaine pour des pirates. On en parlait tout à l'heure, puisque de fait...
Justement, Elena Poincet, cofondatrice de Tetris, vous confirmez ça, le télétravail, les périodes là que l'on a vécues de confinement, et même encore en ce moment, est-ce que le gouvernement demande logiquement que tous ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler 2 à 3 jours par semaine ? C'est des pics de cyberattaques.
Oui, tout à fait, puisque effectivement, les gens sont partis avec les ordinateurs et d'un seul coup, on se retrouvait plus protégé quelque part par des barrières numériques qui étaient présentes au sein de l'entreprise. Et puis là, tout le monde est arrivé chez soi en passant par sa box et donc facilité pour le pirate de pouvoir, c'est-à-dire moins d'éléments de sécurité qu'à l'intérieur de l'entreprise. Donc effectivement, c'était beaucoup plus facile pour eux.
Certains disent que ces attaques sont le fruit de travail de groupe. Groupes extrêmement bien organisés, hein, qui sont parfois organisés comme de vrais PME. C'est le cas ?
Oui, c'est le cas, tout à fait. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des cartels. Hein, et donc, ils ont vraiment une recherche et développement extrêmement forte, extrêmement puissante. J'allais presque dire au même niveau qu'un État. Quoi, hein, et donc, ils font de la recherche extrêmement poussée pour avoir justement des armes informatiques qui peuvent détruire, qui peuvent faire du sabotage dans les entreprises.
Mais on est bien préparé en France par rapport à d'autres pays ?
Alors nous, on a la technologie pour être préparé à ça.
Ouais.
Après, est-ce que les chefs d'entreprise prennent conscience de ces attaques-là ? Ça, c'est pas toujours le cas, c'est vrai.
Mais une solution comme Tetris, parce que là, il y a peut-être un paquet de chefs d'entreprise, de petites entreprises ou de toutes petites entreprises ou de commerçants qui nous écoutent et qui se disent « bah oui, c'est bien gentil, mais je vais pas non plus sabrer tout mon budget annuel dans une dépense liée à la cyberattaque ». C'est abordable, une solution comme la vôtre, pour tout type d'entreprise ?
Oui, c'est complètement abordable, puisque là, on développe une offre justement avec nos grands partenaires pour les TPE, les PME, et donc c'est extrêmement abordable.
Clément Sade, vous êtes le président et le fondateur de Pradeo. Vous êtes présent seulement en France avec votre solution de tracing d'application?
Alors non, on est à l'international et justement dans le contexte qu'on vient de décrire, nous on connaît une explosion de la demande et particulièrement sur des continents sur lesquels on n'était pas présent jusqu'à présent.
C'est-à-dire lesquels?
L'Asie, le Moyen-Orient. Les États-Unis, et notamment dans le cadre d'un partenariat qu'on a établi avec Samsung récemment.
Et là encore, qui sont vos clients? Ce sont nos employeurs, nos entreprises qui utilisent ce genre de solution? Ou nous, là, on peut se dire, bah tiens, j'ai envie de me sécuriser.
Mais oui, parce que moi, j'ai plein d'applications sur mon téléphone. Est-ce qu'elles sont toutes sûres? Est-ce qu'ils sont en train de m'écouter? Là, ils sont pas en train d'écouter la France Bouge.
Profitez-en
bien.
Si vous voulez, on vérifiera.
Non, mais franchement, comment pouvons-nous connaître la fiabilité et le sérieux d'une application? Y a-t-il des moyens?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on vend essentiellement à des entreprises, même si, vous avez raison, la problématique touche tout un chacun, y compris le particulier. Mmh. C'est vrai que nous, on a fait ce choix en priorité parce que les entreprises avaient cette sensibilité de se dire qu'effectivement, le téléphone pouvait être une menace. Mais on est en train de voir, effectivement, que cette sensibilité est en train de descendre, y compris chez le particulier. Mmh. Donc, on est en train de réfléchir pour voir si, potentiellement, on ne sortirait pas, sur l'année prochaine, une solution grand public.
Ça s'appelle Pradeo. Merci à vous, Clément Sade, d'être venu nous en parler. Merci. Vous êtes le président et le fondateur de cette entreprise Montpellier-Rennes. Merci à vous.
Elena Princel, la cofondatrice de Tetris, l'un des leaders en France dans la cyberdéfense. Vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
C'est tout de suite la suite de La France Bouge, toujours avec vous Elena Poincet, vous êtes la cofondatrice de Tetris. Alors, on parle de cyberattaque hein, et vous êtes l'une de nos pépites en France dans ce secteur. On le dit depuis le début de l'émission, il n'y a jamais eu autant qu'en ce moment des cyberattaques. On en a peut-être nous aussi, journalistes, jamais autant parlé qu'en ce moment. Et notamment toutes les cyberattaques contre les hôpitaux, on en a beaucoup parlé au moment des pires moments du Covid, mais également les mairies, les administrations. C'est pourquoi? C'est parce que l'État français est peut-être celui qui se protège le moins bien versus les entreprises? Ou parce que ça fait parler? Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est là où il y a le plus d'argent à récupérer quand même.
Non, je peux pas trop vous dire. En fait, effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir les bonnes technologies. Et peut-être que différents responsables de sécurité informatique ne sont pas suffisamment informés de ces attaques. Et puis, on a essayé d'expliquer, hein, bien avant que les rançons logicielles arrivent en France, c'est-à-dire entre 2017 et 2018, dans une période assez noire pour Tetris, parce que personne comprenait notre innovation. Et puis, les rançons logicielles sont arrivées. Et effectivement, tout le monde se dit, j'ai un antivirus, ça suffit, mais en fait, ça ne suffit pas. À l'heure d'aujourd'hui. Il faut justement la couche juste au-dessus qui permet de neutraliser ces attaques qui sont inconnues. C'est ça la difficulté.
C'est votre spécificité chez Tetris, on le rappelle. Hein, c'est une sorte d'antimissile, missile qui va intercepter le virus qui est sur le point, qui est imminent, qui est sur le point d'attaquer l'ordinateur.
Par exemple, au virus qui mute, ne serait-ce du coronavirus, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que vous, c'est comme si vous trouviez un vaccin en temps réel qui s'adapte. Alors, on prend beaucoup de métaphores pour qu'on comprenne
que tout le monde
tous,
puisse comprendre. Donc finalement, quand vous parliez de rançon, de logiciel, de rançon de logiciel, ces rançons, très souvent, on en a entendu parler, sont-elles payées?
Alors c'est ça toute la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui n'osent pas afficher qu'ils ont été ransomwareisés du verre du premier groupe, et puis donc qui finissent par payer parce qu'il y a un besoin.
Parce que c'est l'objectif du hacker.
C'est surtout l'objectif du hacker de récupérer effectivement de l'argent, puisque vous avez qu'un tout petit fichier qui vous dit d'écrire à cette adresse et payer tant quoi. Donc voilà, ou verser tant de bitcoins. Donc c'est toute cette difficulté là, et puis un chef d'entreprise face à ça, qu'est-ce qu'il fait quoi? Donc il appelle, il essaye d'appeler les sociétés qui peuvent le sauver, mais en fait au final...
Le problème, c'est qu'une fois qu'on a été hacké, c'est trop tard.
Mais c'est trop tard, c'est exactement ça, parce qu'il suffit qu'il n'ait pas de backup, de sauvegarde de données, ou que ces sauvegardes de données soient complètement elles aussi chiffrées, et là c'est la société est terminée, il faut tout reprendre à zéro. Et là ça coûte très cher.
Et ça peut toucher des très grands groupes, hein. J'avais en tête l'exemple de Saint-Gobain qui a même dû faire ce qu'on appelle une provision sur résultat. résultats parce qu'ils avaient eu une attaque informatique importante.
Et ça, Saint-Gobain, c'est terrible parce que nous, on a pris les virus souches justement de l'attaque de Saint-Gobain et notre système l'a neutralisé tout de suite en direct. Et on s'était dit à cette époque-là, tiens, ben, si Saint-Gobain avait eu notre technologie, eh bien, ils seraient sauvés.
Ils sont venus comme clients maintenant. Vous êtes en train de négocier en disant, tiens, si vous nous aviez eu, c'est... Mais ces exemples, on parlait de la démairie et tout, du coup, ça vous donne un afflux de clients parce que même un petit patron de PME se dit, oulala, faut que je sécurise mon business, c'est sa vie c'est qui est en jeu quand il y a une cyberattaque.
Ouais, alors, c'est extrêmement compliqué aussi pour tout le monde, cette cybersécurité, parce que si, par exemple, vous construisez une maison, vous savez qu'il faut un électricien et puis vous appelez une entreprise d'électricité. Vous savez que si vous devez mettre un toit, ben, vous appelez des couvreurs, etc. Alors d'aujourd'hui, tout le monde se dit de faire de la cybersécurité, mais on va vous vendre quelque chose qui va simplement vous protéger sur un petit angle et pas sur la globalité. Mmh. Et justement, les gens, je pense, sont très mal informés. Et puis,
j'imagine que dans votre secteur, il y a plein de petits malins qui vendent un peu tout et n'importe quoi.
Voilà, beaucoup de commerce. Et,
vous parliez du responsable informatique d'une entreprise. Finalement, il doit avoir quoi comme qualité aujourd'hui, le responsable informatique d'une entreprise ? Parce que vous parliez des antivirus, mais ce n'est pas suffisant. L'enjeu autour de la cybersécurité, c'est un enjeu permanent qui devient de plus en plus important. Il faut des profils très pointus.
Exactement, il faut des profils très pointus et qui sont justement et qui se renseignent en permanence et qui font de la veille technologique pour connaître toutes les attaques possibles et pour pouvoir protéger et prendre les bonnes décisions au niveau de son entreprise. Et après, lui, il fait des propositions et bien sûr, il y a le directeur des systèmes d'information qui lui décidera et puis voir le COMEX.
Mais on les a ces formations en France ? Sommes-nous suffisamment formés pour ça ?
Oui, il y a beaucoup de formations en France, beaucoup d'universités et de plus en plus. Et d'ailleurs, dans le cadre du campus cyber justement qui se met en place au niveau de la défense, et il y a toute une formation et des groupes de travail pour justement augmenter encore la formation sur la cybersécurité.
Alors nous, on aime bien chaque jour, Elena Poincet, dans cette émission, revenir sur l'histoire d'une entreprise ou d'un produit qui a traversé des années ou des générations. Aujourd'hui, on s'intéresse à un métier. On va s'intéresser à l'espionnage, plus particulièrement sur le métier d'espion. Donc finalement, on sait peu de choses. Hein. Après 28 ans de carrière militaire, dont 15 ans passés à la DGSE, Olivier Mas, c'est un pseudonyme, est aujourd'hui retraité de l'armée. Il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Talks with The Spy, qui est dédié au monde de l'espionnage et qui compte beaucoup, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Il est marié, il est père de 4 enfants. Est-ce qu'on sait en tout cas c'est qui vit dans le sud de la France ?
Oui, et on est allé chercher dans les archives d'Europe 1 et on a découvert que Pierre de Cossette, ancien salarié d'Europe 1, l'avait rencontré en 2018. Alors à l'époque, il était même sous le pseudo Beryl 614. On va découvrir ce reportage.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Il a une petite cinquantaine d'années, dont 15 à la DGSE et quelques-unes dans le plus complet anonymat, comme dans le bureau des légendes, la série télé. Pas étonnant que Beryl 614, son pseudo sur la toile, ait donc choisi pour une de ses premières apparitions sur YouTube de parler du métier d'agent secret.
On pourrait être tenté de penser qu'un espion, parce qu'il passe la majeure partie de son temps à manipuler et à mentir par nécessité, est nécessairement tordu et maléfique. Or, c'est à mon avis tout le contraire.
Dans ces vidéos où l'on ne voit pas son visage, l'ancien agent secret bat en brèche quelques idées toutes faites sur les espions, se lance dans un palmarès des services secrets du monde entier et analyse la chute de Raqqa. À distance, par Skype, il nous explique sa démarche. Ni secret d'État, ni service commandé, ni mensonge.
Il y a plein de choses à dire. Sans rentrer dans le cœur du renseignement, sans rentrer dans des affaires spécifiques, il y a des thématiques sur lesquelles j'ai un avis. À chaque fois, je sais ce qui a été déjà publié, ce qui est connu. Mais je pense apporter l'éclairage d'un spécialiste de choses qui disent « Attendez, ça tout le monde l'a lu peut-être, mais moi je sais que c'est vrai. Je donne des clés de lecture. » Donc normalement, dans ces vidéos, on aura la vérité des choses.
Cette chaîne YouTube, la DGSE l'aurait découverte après coup. L'ancien espion lui a des idées pour plusieurs mois. La prochaine, les services pakistanais savaient-ils que Ben Laden se cachait sur leur sol ?
Alors, Elena Poincet, cofondatrice de Tetris, l'une de nos pépites en matière de cybersécurité. Si on a voulu passer ce petit reportage, c'est parce que vous êtes, vous aussi, une ancienne agent secret ? Vous êtes une James Bond girl, je ne sais pas si vous aimez quand on vous dit ça comme ça, mais c'est vrai ?
En fait, j'ai fait 26 ans dans l'armée, 12 ans dans l'armée traditionnelle et effectivement 14 ans au service action de la DGSE. Donc voilà, en tant que militaire.
Mais agent secret ?
Mais donc,
avec une fausse identité et tout ça.
Voilà, vous avez une légende.
Voilà, une légende, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, puisque le but de ces agents secrets, c'est de servir les intérêts de la France en dehors des frontières. Donc, voilà.
Et donc vous, en quelque sorte, Tetris, c'est la suite logique, mais c'est une reconversion.
Complètement. Avec Laurent Houdot, quand on a quitté tous les deux la DGSE, on s'est dit, eh bien, voilà, on allait créer maintenant notre société, notre propre société. Et puis, voilà, on s'est rendu compte que espionner à l'étranger, c'était sympa, mais quand on a commencé à faire de l'espionnage contrôlé, c'est-à-dire avec nos clients, des prestations de clients, et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de failles et qu'on bypassait tous les systèmes de sécurité, eh bien c'est là où on a décidé en 2012 de partir d'une feuille blanche et de créer notre propre solution de cyberdéfense.
Alors on a eu aussi envie de vous inviter parce que vous avez reçu récemment un prix qui s'appelle le prix Bold Awards, qui est un prix financé par Veuve Clicquot qui récompense l'entrepreneuriat au féminin, et vous étiez la star et le grand prix de cette année. Elisabeth le disait tout à l'heure, il n'y a que 5% de femmes dans la cybersécurité, quasiment aucune à des postes de top management comme on dit. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes arrivé ?
En fait, oui, c'est vrai qu'il n'y a que 5% et c'est vrai qu'il n'y a que 20% dans l'IT en général. Moi, je ne me suis pas posé la question si je pouvais y arriver ou pas y arriver. C'est-à-dire, avec Laurent, on a décidé tous les deux et puis on s'est lancé dans l'aventure Tetris. L'aventure Tetris, c'est aujourd'hui, on a à peu près 30% de femmes.
Vous battez justement pour essayer d'être un peu au-dessus des standards ?
Il faut avoir au moins minimum 30% de femmes pour vraiment sentir la mixité. Justement, c'est là où toutes les équipes sont les plus performantes, en fait. C'est quand les hommes et les femmes travaillent ensemble et produisent ensemble. Et c'est vrai qu'au sein de Tetris, nous avons aussi un COMEX à 75% féminin.
75% féminin ?
Oui, exactement. C'est extrêmement rare dans ce domaine d'activité, en tous les cas.
Donc, oui, vous êtes en train de nous dire que c'est un milieu qui est en train de se féminiser ?
Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les jeunes aiment avoir du sens dans leur métier. Et puis les femmes savent optimiser, peut-être plus que les hommes. Alors je fais une petite parenthèse, mais aussi et ça aime protéger. Voilà. Et c'est le rôle d'une femme, je crois, en général, de pouvoir protéger. Et notre action, justement, protéger les entreprises avec nos systèmes, ça fait partie de l'aventure et bien sûr aussi de nos personnels masculins.
Et votre expérience d'agent de secret vous aide au quotidien dans l'entrepreneuriat, dans Tetris ?
Si vous voulez, oui, parce que il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Nous, on veut aller très loin, très fort, et si on veut devenir justement un leader européen, on est obligé de prendre des risques. Là, on part en Allemagne, on s'installe en Espagne.
Puis j'imagine que vous êtes du coup connaisseuse d'une menace réelle, vous l'avez pratiquée, donc vous êtes encore sûrement plus performante que si vous n'aviez pas fait ce travail.
Exactement.
Exactement. Cette double fonction.
Oui, voilà. On me dit, est-ce que tu as peur, Léna ? J'ai dit non, j'ai pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc il faut simplement avoir envie d'y aller. Prendre le risque, le mesurer. Et puis certains le mesurent à 2 km de soi, et puis d'autres le mesurent à 100 mètres, je ne sais pas. Et chacun a son échelle.
Et vu que vous n'avez pas peur, vous serez un jour leader mondial. Vous êtes déjà leader
européen.
Exactement. Bon,
c'est l'enjeu. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut prendre des risques. C'est ce que vous nous dites, Elena Poincet. Vous êtes la cofondatrice de Tetris. Vous restez avec nous. Là, il va avoir un projet d'entreprise. C'est une future entrepreneur qui se lance. Vous êtes prête à lui donner votre avis ?
Tout à fait.
Allez, on y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Elle bouge et elle bouge notamment au féminin. Cette France, on va le découvrir encore dans ses trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Attention, aujourd'hui, c'est Elena Poincet qui est à la tête de Tetris. Tetris, c'est notre leader européen en matière de cybersécurité pour déceler les attaques avant qu'elles arrivent. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Nous, on a une intelligence réelle avec Nathalie Carré chaque jour dans La France bouge, est notre partenaire de la CCI qui va nous apporter, comme chaque jour, ses précieux conseils.
Et aujourd'hui, une entreprise qui est née il y a 3 mois. Bonjour Camille Ménéguin.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes toulousaine et vous avez fondé Altesa Service. C'est une plateforme en ligne de services immobiliers à la carte pour s'adapter au plus juste, au plus proche du besoin de chaque client. Vous avez toujours travaillé dans l'immobilier, donc c'est un domaine que vous connaissez bien. De quoi s'agit-il ? Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti.
Merci beaucoup. AltesaService.com, en fait, fait est né d'un constat très simple. Le marché de l'immobilier, de la vente, est scindé en deux marchés bien distincts. Le marché du particulier et le marché de l'agence immobilière. Alors avec mon équipe, on a réfléchi à trouver une solution hybride. L'idée, c'est d'arrêter d'opposer ces deux marchés-là et c'était pas facile. Malgré tout, au bout de 6 mois de brainstorming, on a trouvé une solution, ça s'appelle Altesa Service. C'est un site en e-commerce, tout simplement, où vous pouvez acheter des services immobiliers à la carte. Par exemple, vous voulez des photos de votre bien, vous voulez qu'on négocie simplement votre offre d'achat, vous allez sur notre site, vous le mettez dans votre petit panier, vous achetez le service directement sur le site. Vous accédez à notre planning en ligne pour prendre rendez-vous avec nous. Et après, on s'occupe de tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir une innovation enfin dans l'immobilier, ce qui n'était pas arrivé depuis à peu près les années 80.
Et ben voilà, bravo en tout cas pour ce pitch qui est très clair. On peut avoir une petite idée des tarifs. Si par exemple, moi j'avais envie que vous veniez prendre des photos de mon appartement pour le vendre, en moyenne ça coûterait combien ?
Alors les photos, c'est un package de 10 photos. Donc le photographe professionnel vient chez vous pendant à peu près une heure et demie. Il choisit 10 photos qui peuvent vraiment marquer les gens parce qu'elles sont sympas visuellement. Il les retouche, il vous les envoie et ça coûte 220 euros.
Ok, bah voilà.
Ce qui est cher ou pas par rapport au marché ? Moi, je n'ai pas d'idée.
Ça me paraît acceptable.
Non, ça fait 22 euros la photo et aujourd'hui, c'est le prix qu'on constate de manière générale auprès des photographes professionnels. Si vous vous contactez par exemple un photographe.
Donc c'est pas moins cher.
Ce n'est pas moins cher, par contre, vous gagnez du temps.
On gagne du temps. Merci à vous Camille. Je me tourne maintenant vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Camille, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Ça a dû vous parler ça, vous êtes en plein dans les travaux de la maison.
j'ai vendu il n'y a pas longtemps.
Je termine et je prends les photos, je revends.
C'est ça.
Bon allez, les forces, les faiblesses d'Altesa Service.
C'est vrai, honnêtement, pour effectivement l'avoir vécu, aujourd'hui, le système de la commission sur le prix de vente d'un bien qui se vend dans 24 heures dès la première minute ou qui faille 6 mois, ben, ça crispe un peu, quoi, surtout quand on a un bien facile à vendre. Donc effectivement, il y avait vraiment besoin de nouveautés. Et puis, vous avez presque 50 prestations, on est vraiment dans le sur-mesure. Puis vous en avez parlé, le prix, effectivement, qui est abordable, quelle que soit la prestation choisie. Alors, un petit point amélioré, une suggestion. Vous venez de le dire à l'oral, mais c'est pas très clair sur le site, préciser les zones géographiques que vous couvrez aujourd'hui, sauf si vous faites toutes les prestations à distance. Et puis, si vous avez des agents immobiliers indépendants partenaires sur tout le territoire, bah, présentez-les. Puis, bah, une suggestion, en fait, pour les personnes qui n'ont jamais vendu de bien, c'est pas facile de choisir et de décider les prestations dont on a vraiment besoin. En fait, il y en a beaucoup. Donc, alors, 3 idées pour simplifier le parcours d'achat. 1, déjà, vous pourriez créer un schéma qui serait un peu le circuit du vendeur ou de l'acheteur en mettant toutes les tâches à réaliser, mais surtout les conditions pour que la tâche soit bien réaliser, les bonnes pratiques qui fonctionnent. Les photos, par exemple, on peut se dire qu'on a un téléphone, on les prend nous-mêmes, mais en fait, il faut le faire avec un grand angle.
Pour apporter de la grandeur et tout ça.
Exactement.
Et bah, c'est pas si simple. Faire 222.
C'est ça. Et puis, quand on regarde sur les sites internet de vente, on se rend compte que les gens, ils savent pas faire.
Hein.
Donc,
ça,
en fait, voilà, il faut vraiment que l'internaute se dise, je suis capable de le faire ou pas. Deuxième option, créer des packs. Par exemple, le pack autonome avec le moins de prestations possible, 4-5, le pack gain de temps avec les prestations les plus chronophages, et puis le pack, pourquoi pas, all-inclusive, par exemple. Et puis, évidemment, on peut rajouter des prestations en option. Puis, troisième idée, éventuellement, proposer un questionnaire pour faire un diagnostic des besoins, pour savoir, je ne sais pas, combien de temps la personne peut consacrer à son projet, si elle a de l'expérience en matière de négo, de vente dans son métier, par exemple. Bref, des questions qui vous permettraient de faire une recommandation de prestations achetées. Donc, accompagnez vos clients dès la phase de choix pour qu'ils soient sereins tout au long de leur parcours immobilier.
Hyper intéressant, comme chaque jour, Nathalie Carré. Oui. C'est vrai que pouvez-vous lui répondre, Camille, effectivement, peut-être nous aider à choisir la prestation dont nous avons besoin, en priorité. Moi, c'est vrai que j'en sais rien.
Alors, comme vous l'avez dit dans ma présentation, j'ai toujours travaillé dans l'immobilier. Donc, mon premier problème, c'est je suis experte dans mon secteur. Donc, tout ce que vous venez de dire, mais en fait, j'ai pas pensé parce que pour moi,
c'était
une
évidence.
Mais voilà.
C'est le problème de l'entrepreneur, ça.
Exactement.
Tout ce qui est évident ne l'est pas pour le client.
Oui, et c'est ce qui est super aujourd'hui pour moi parce que je vais repartir avec plein d'idées et mon équipe doit être ravie d'entendre tout ça parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont devoir faire demain. Mais c'est effectivement une très bonne analyse. Je pense que la frise peut être très sympa pour nos clients.
Oui, effectivement. Elena Poincet, vous êtes la cofondatrice de Tetris avec votre œil d'entrepreneuse. Vous en pensez quoi? Contrat de cybersécurité, vous le vendez après. Hein.
Non, je pense que c'est effectivement une idée extraordinaire. Après, moi, en tant qu'entrepreneuse, ce que j'allais dire, c'est ce passage à l'échelle. Je ne sais pas combien vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et est-ce que vous opérez uniquement en région toulousaine ou est-ce que quel est votre projet en fait pour aller plus loin?
AltezaService.com, c'est une marque supplémentaire à ma première entreprise. Initialement, j'ai créé une agence immobilière il y a 1 an et demi. Nous sommes 10 dans l'agence et aujourd'hui, cette idée, elle est issue de ces 10 cerveaux. Donc l'idée, c'est de s'approprier un petit peu plus le marché, de s'adapter un peu plus au marché. Et c'est grâce à ça, du coup, qu'on a lancé cette offre qui est complémentaire pour moi au marché de l'agence immobilière. Voilà.
D'accord. Justement, c'est toute la difficulté quand on passe à l'échelle d'anticiper les métiers futurs. Et c'est ça dont il faut anticiper. Ouais, c'est la première des règles quand on est entrepreneur.
Quel va être le besoin de demain?
Voilà, quel va être le besoin de demain?
On l'avait compris. Et c'est une grande difficulté.
Voilà, pour répondre aux besoins du client, pour qu'il soit satisfait, pour analyser justement toutes les données qui puissent remonter de votre application. Quoi.
Oui.
Ça s'appelle Alteza Service. Merci à vous, Camille Ménéguin, d'être venue dans La France Bouge. Vous avez besoin de fonds, là? Comment on peut vous aider?
En parlant de nous?
Voir le site. Merci d'être venue dans La France Bouge. Merci à vous, bonne chance.
Et Nathalie Carré, on vous dit également à demain. On vous emmènera virtuellement dans Novalis, puisque demain, on sera en délocalisation à Annecy, à la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Paris qui neige demain, d'ailleurs.
Oui, Paris qui neige. Vous allez sortir vos moon boots. Vous allez être encore une fois de plus. Très belle, si elles sont prêtes, c'est encore mieux. Si d'ici là, vous voulez en tout cas vous aussi présenter votre joli projet d'entreprise, il suffit de nous envoyer un mail. Je vous assure qu'on les lit tous. Parfois, on met un peu de temps à répondre, mais on les lit tous.
Charlotte Barricon, on les lit tous.
Voilà. lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.
Allez, suite et fin de votre émission, Léna Poincé, vous êtes la cofondatrice de Tetris. On va avoir affaire maintenant à une entreprise qui recrute. Vous aussi, vous recrutez chez Tetris?
On recrute en permanence.
Vous allez tout nous dire dans un instant.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission, une émission qu'on est très heureux de passer en compagnie d'Elena Poincet, qui est la cofondatrice de Tetris. Tetris, c'est véritablement l'une de nos pépites dans ce domaine de la cybersécurité, déjà leader européen de tous ces systèmes qui permettent de détecter avant qu'elles arrivent les cyberattaques. Si un jour vous en entendez parler partout, vous pourrez vous dire, on les a entendus avant tout le monde à la France Bouge.
Et à la France Bouge, on accompagne les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais on soutient aussi les entreprises qui sont en manque de candidats. Bonjour Jérémy Manigne.
Bonjour à vous.
Vous êtes le directeur général de Nigi. Nigi, c'est une entreprise du service numérique. Vous accompagnez les entreprises globalement dans leur transformation. Elle existe depuis 20 ans, environ 950 salariés. Le siège est à Rennes, entreprise 100% française. Et si vous êtes dans la France Bouge, c'est parce que vous recherchez 350 personnes. Quand j'ai lu d'ici à 2022, c'est-à-dire d'ici demain, quoi.
Absolument, on recrute dès aujourd'hui à la fois donc 350 personnes en CDI, sur des profils très très divers qu'on pourra partager tout à l'heure, et également 60 stagiaires et alternants. Voilà, on est en pleine campagne de recrutement également sur ces profils-là, sachant que plus de 90% de nos stagiaires et alternants sont convertis en CDI à la fin de leur expérience au sein de Nigi.
Elisabeth le disait, vous êtes quasiment aujourd'hui 1000 salariés, vous voulez en embaucher donc l'équivalent d'un tiers en plus. C'est parce que votre croissance est à ce point-là phénoménale?
Absolument, on a fait 15% de croissance organique, donc uniquement sur nos propres ressources, en moyenne tous les ans sur ces dernières années. Et on souhaite évidemment prolonger ce développement, comme vous l'avez souligné, à la fois à Paris, mais également en région. On est très présent en région, donc notre siège est à Rennes, mais on est également présent à Nantes, à Lille, à Lyon et à Bordeaux. D'ailleurs également avec une petite filiale à Singapour, pour ceux qui seraient tentés par l'international.
Et vous avez besoin de quoi de façon concrète comme poste?
Alors aujourd'hui, on a besoin de consultants pour accompagner notre métier du conseil dans des profils d'écoles d'ingénieurs ou de grandes écoles de commerce. Mais on a également une agence, et au sein de l'agence, besoin de designers créatifs pour imaginer les nouvelles expériences digitales. Donc là, on est sur des profils beaucoup plus, d'écoles beaucoup plus créatives. Et puis évidemment, le cœur de notre métier, donc les développeurs, Donc là, on va retrouver des écoles d'ingénieurs, mais également des profils en reconversion. On est ouvert à l'ensemble de ces profils qu'on essaye d'accompagner
du coup.
Et de former. Exactement.
Alors pour celles et ceux qui ont envie de postuler, on fait comment pour postuler chez vous ?
Alors pour postuler, c'est niji.fr.
Donc niji.fr.
Voilà, et tous les postes sont détaillés.
Merci à vous Jérémy Manine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Niji. Merci d'être venu dans La France Bouge. Léna Poincé, vous êtes la cofondatrice de Tetris. Vous recrutez qui et combien de personnes en ce moment chez Tetris ?
Nous recrutons aussi des développeurs, puisque là, c'est il faut...
Mais vous faites un gros bagage, j'imagine, en cybersécurité
bac
déjà ?
Bac plus 5 au moins, non ?
Bac plus 5, effectivement, et on a même à l'intérieur de Tetris une cyberacadémie.
Ah, génial !
Pour justement avoir un tronc commun de formation pour tous nos ingénieurs qui arrivent d'universités différentes, avec des programmes aussi sur la cybersécurité différents, donc on est obligé de réaligner un petit peu tout le monde. Mmh. On recrute aussi, bien sûr, des commerciaux, des inventeurs.
Et à PESAC, on peut être en télétravail ?
Alors, on peut être sur PESAC, toute notre recherche et développement est sur PESAC, donc en région Nouvelle-Aquitaine, donc ça c'est extrêmement, et puis là, on donne aux ingénieurs le pouvoir d'agir, justement, sur
nos technologies.
Donc plutôt
sur site, vous dites, pas trop de télétravail, il faut venir à PESAC quand même.
Voilà, ouais, pour la recherche et développement, oui, c'est important. Et après, pour tout le reste, effectivement, c'est en télétravail sur toute la France. Et on attire même des gens qui arrivent de Pologne, d'Espagne, etc. Donc on est en train de justement d'attirer tout ce monde-là sur notre région Nouvelle-Aquitaine.
Vous reviendrez nous en parler, ça nous a passionnés, Léna Poincé. Merci d'être venue dans La France Bouge.
Merci
vous êtes la cofondatrice de Tetris. Merci à vous.
Et donc toute l'équipe de La France Bouge demain, Metz et Moon Boots, direction Annecy. Pourquoi donc ? Parce qu'on va s'intéresser à l'économie de la montagne. On sera avec le patron de Salomon, qui est la plus grande marque dédiée au ski en France. Émission en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie et donc depuis la CCI de Haute-Savoie à Annecy.
Allez, à demain dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.